Chanson d'Europe, Catherine Roland.
Quando i carabinieri lo hanno fermato, Luca Traini aveva appena fatto il saluto romano davanti al monumento ai caduti di Macerata.
Bonjour à tous, c'était il y a bientôt deux semaines et pourtant le souvenir de l'attaque raciste de Macerata continue de troubler la campagne électorale en Italie. Le 3 février dernier, Luca Traini, un sympathisant d'un groupuscule fasciste, tire depuis sa voiture sur des Africains. 6 seront grièvement blessés et transportés à l'hôpital. Depuis, le sujet ne cesse d'empoisonner le débat politique. Et c'est le reportage de Cécile Debarge dans le nord de l'Italie.
La scène est symptomatique du malaise. En pleine conférence de presse avec le ministre De Vicenti, chargé de la cohésion territoriale, et deux représentants du Partito Democratico, le Parti démocratique italien, la question est posée. Pourquoi le PD ne réagit-il pas fermement et d'une seule voix pour condamner ce qui s'est passé à Macerata ? La question est clairement éludée, le ministre reste silencieux et Stefano Rimini, responsable des questions migratoires au PD d'Émilie-Romagne, préfère insister sur le travail réalisé au cours du mandat.
On ne croit pas aux solutions démagogiques ou aux chimères complètement irréalisables de certains partis politiques. Lorsqu'on a dû affronter concrètement les arrivées de migrants par bateau, il me semble qu'on y a répondu de manière positive. En 3 ans, nous sommes bien parvenus à créer un système d'accueil.
À ses côtés, Paolo Calvano, secrétaire général du parti en Émilie-Romagne, enfonce le clou.
C'est très facile de la part de l'opposition d'avancer toutes sortes de propositions qui s'adressent souvent plus aux tripes des électeurs qu'à leur cerveau.
Le malaise est palpable. Le nom de la ville de Macerata n'est pas prononcé une seule fois par les 3 responsables politiques en plus d'1h45. Quelques jours plus tard, lors de la manifestation contre le racisme organisée à Macerata, le PD décide de ne pas défiler dans le cortège aux côtés des militants antifascistes. Aucun responsable des grands partis politiques n'est d'ailleurs présent.
On est à un tournant en ce moment, et si on se trompe dans notre manière de réagir ou de gérer ses émotions, on renforcera les partis qui gagnent des voix avec ce genre d'événement.
Fabio Maggio est l'un des représentants de Forza Italia à Pederoba, en Vénétie. Là où le PD est largement critiqué pour son manque de clarté, certains partis de droite ont compris le danger.
Ça fait mal, ça fait vraiment mal de voir ce qui s'est passé à Macerata.
Claudio Bergamin est lui aussi l'un des responsables locaux de Forza Italia. Au sein du conseil municipal où il officie, son parti est en coalition avec la Ligue du Nord, une association sulfureuse quand on sait que Luca Traini, le tueur, a été candidat pour ce parti quelques années plus tôt.
Il ne représente pas du tout l'Italien moyen. C'est un extrémiste, un criminel. Je le redis, et tout le monde devrait prendre ses distances avec lui.
Accusé d'avoir empoisonné le débat politique dans une campagne électorale plus que jamais centrée autour des questions migratoires, la droite botte en touche. Claudio Bergamin.
Je crois que c'est de la responsabilité des partis de rendre les débats moins tendus et de condamner ce qui doit l'être.
Or, rares sont les hommes politiques à avoir eu un mot pour les victimes. Fabio Maggio.
Je dois dire tout d'abord que j'ai honte qu'aucune personnalité du paysage politique italien ne soit allée voir les 6 personnes blessées à Macerata. Ça vous donne une idée du climat qu'on doit affronter aujourd'hui.
Antonio Rubino, ancien responsable du PD en Sicile et aujourd'hui membre des partisans, les Partigiani, a osé, lui, envoyer un bouquet de fleurs aux victimes, les invitant en Sicile quand il serait rétabli. En retour, il a reçu une lettre de menace de mort de la part de militants racistes lui interdisant d'inviter des étrangers chez eux. Une atmosphère empoisonnée à l'extrême à l'approche des prochaines élections, explique Mohamed Ali Zakari, réalisateur somalien.
Personne n'est venu à Macerata pour dénoncer ce qui s'est passé. Si c'est un terroriste, c'est un terroriste, qu'il soit musulman ou italien. Mais la raison pour laquelle personne n'est venu, c'est que le 4 mars, on a des élections.
Arrivé en Italie il y a 10 ans, Mohamed Ali Zakari fait aujourd'hui partie du projet Archivio Memorie Migranti, qui sillonne les écoles du pays pour sensibiliser les enfants aux migrations.
Quand il y a eu des violences en France, François Hollande est allé voir les victimes africaines pour leur dire pardon.
Un geste symbolique mais capital, selon lui, plus encore quand l'attaque de Macerata n'a en réalité rien de nouveau. Lors de leur visite dans les écoles, Mohamed Ali Zakari et Monica Bandela, à l'origine du projet Archivio Memorie Migranti, diffusent un court film. On y voit un Sénégalais raconter son agression par un militant d'extrême droite à Milan, il y a 10 ans. « Quand je suis sortie du bus, raconte-t-il, il m'a regardé et dit que quelque chose n'allait pas. Il m'a poignardé et craché dessus. Son corps restera près de 2 heures dans une mare de sang en pleine rue avant que quelqu'un ne daigne appeler les secours. Plus tard, en décembre 2011, à Florence, 2 Sénégalais sont tués par Gianluca Casseri, un militant fasciste, rappelle Monica Bandela.
Le militant fasciste de Macerata était lui au volant d'une voiture, mais l'idée était la même. Je te tire dessus parce que tu es noir.
Et c'est justement de ce débat que les politiques peinent à s'emparer, déplore l'enseignante et responsable d'Archivio Memoria Migranti.
Ça fait peur de nous dire que nous, les Italiens, nous ne sommes plus ceux qui ont émigré, ceux qui d'habitude sont accueillants. Ça fait peur parce que c'est un changement identitaire très fort et je crains qu'il puisse se créer à la place quelque chose de très négatif.
La première réponse sera celle donnée dans les urnes par les électeurs le 4 mars prochain. D'après les sondages, 28% des électeurs ont affirmé que leur choix se ferait selon les propositions des partis sur l'insécurité, un thème qui préoccupe 70% d'entre eux contre 55% en 2003.
La marchandisation des enfants est un problème européen.
Ça se passe chez nous, sous nos yeux.
Le sujet est encore tabou en Europe. Comment imaginer sur le vieux continent la persistance de l'esclavage pour les enfants, d'un trafic organisé de chair fraîche ? Et pourtant, c'est une activité très lucrative de réseaux criminels qui vendent des filles et des garçons. Pour la chaîne Arte, la réalisatrice allemande Sylvia Nagel a mené l'enquête en Europe de l'Est, en France, en Allemagne. Elle a notamment rencontré des policiers, d'anciennes victimes, et elle nous détaille d'abord ce que recouvre ce trafic d'enfants.
C'est la détention arbitraire, la pornographie, bien sûr, l'adoption illégale et le travail forcé, mendié, volé et le prélèvement d'organes et la prostitution forcée. Et on a vu que, par exemple, pour la prostitution forcée, aujourd'hui, on parle de 500 000 jeunes femmes en Europe, dont 20% sont des enfants.
Et d'où viennent ces enfants ? On les imagine arriver en Europe ? Est-ce qu'il y a des enfants européens également qui sont concernés ?
Oui, c'est des Allemands, c'est des Français. Les enfants viennent aussi de la Bulgarie, de la Roumanie et en France aussi de l'Afrique, surtout du Nigeria et aussi de la Roumanie. C'est les pays pauvres en fait, mais le problème aussi en Allemagne, et ça existe aussi en France, c'est les très jeunes filles qui sont en puberté, qui cherchent qui elles sont et elles tombent amoureuses des lover boys. C'est des hommes qui font semblant de l'aimer, qui offrent des vêtements, des cadeaux et tout ça, et les forcent à se prostituer.
Alors, est-ce que vous estimez que ce trafic a augmenté ces 10 dernières années, justement parce que c'est de l'argent facile, finalement, pour les proxénètes et pour tous ceux qui abusent des enfants ?
Oui, c'est l'argent qui est facile à gagner pour les traiteurs parce que ces enfants, ils sont jeunes, ils ont peur. Donc, pour les exploiteurs, c'est facile de leur demander de faire tout ce qu'ils veulent. Alors, pour vous donner un exemple, au Nigeria, beaucoup d'hommes sont tués par la lutte contre le mouvement Boko Haram. Les veuves ont beaucoup d'enfants et ils ne peuvent pas les nourrir. Alors, les filles, on leur dit, on va vous offrir une vie meilleure en France. Alors, une vie scolaire, un travail. Et souvent, elles sont aussi influencées par la cérémonie du voodoo. Alors, une fois en France, ces filles, alors on parle des mineurs là, sont obligées de se prostituer et on leur confisque les papiers. Elles doivent payer la dette de leur voyage aux exploiteurs et elles n'ont pas de choix. Et c'est ces filles-là qu'on envoie dans le bois de Boulogne se prostituer.
Alors ça, c'est pour la prostitution, mais il y a aussi le cas de très très jeunes filles, voire d'enfants, qui se retrouvent esclaves au sein de familles, condamnées à être en fait des domestiques.
Oui, j'ai rencontré 2 jeunes femmes qui étaient exploitées dans des familles. Une d'abord au Addis Abeba, puis à Dubaï, et puis l'autre au Maroc, et puis en France. Mais elle aussi, elle était très très jeune. Elle n'avait pas de papier, elle ne pouvait pas écrire, elles étaient vraiment exploitées par ses familles d'une façon incroyable.
Alors voilà pour la situation des jeunes africaines, une situation qui est particulièrement dramatique aux portes de l'Europe, hein, en Ukraine. Est-ce que l'état de guerre là-bas facilite les trafics et les mafias ?
Ah oui, bien sûr, parce que dans un pays où il y a de la guerre, on s'y coupe pas vraiment de la situation des enfants. Alors là, c'est encore 10% des enfants qui sont exploités viennent de l'Ukraine.
Y a-t-il des moyens qui ont été mis en œuvre pour lutter contre la marchandisation des enfants ?
Franchement, non. Alors pour moi, dans la recherche que moi et ma collègue en fait, on a souvent parlé avec les gens, ils disent « bon ben on regarde pas ». On ne sait pas qui sont les victimes, on ne regarde pas, on ne sait pas que ça se passe chez nous, dans l'appartement à côté. Et puis la police, elle n'a pas de moyens, elle n'a pas assez de personnel. La justice, c'est le même problème. Alors c'est vraiment difficile aussi de vouloir lutter contre cette traite.
Trafic d'enfants au cœur de l'Europe, c'est un documentaire diffusé sur la chaîne franco-allemande Arte et c'est mardi à 22h30.
On a Belfast street, there lived a boy who had the world at his feet.
Il s'appelle Gary Haggerty, il est protestant nord-irlandais et c'est un ex-paramilitaire loyaliste. Il a été condamné à 6 ans et demi de prison. Pendant 16 ans, de 91 à 2007, il a participé à de nombreuses violences, notamment au meurtre de 5 catholiques. Gary Haggerty a d'ailleurs plaidé coupable pour plus de 200 chefs d'inculpation. Le hic, c'est qu'il ne devrait pas faire de prison, ou très peu, grâce à un accord passé avec la police qu'il a aidé en tant qu'informateur, ce qui suscite colère et chagrin des familles des victimes, Julien Lagache.
Le jour du verdict, le tribunal a affirmé que Gary Haggerty, 46 ans, avait été impliqué dans une campagne terroriste qui avait fait de nombreux morts dont il était directement responsable, des faits qualifiés d'une extrême gravité, et s'il avait passé un accord avec la police, c'était plus par intérêt personnel que par souci de réparer ses crimes, selon les propres mots du juge. Mais le magistrat a ajouté qu'en devenant informateur et témoin pour la police, il avait aussi pris des risques personnels considérables qui l'affecteraient sans doute jusqu'à la fin de sa vie. Un criminel reconnu et bientôt libre, c'est le paradoxe de cette société nord-irlandaise qui, tout en cherchant à rendre la justice, se montre clémente envers les criminels qu'elle pourchasse s'il l'aide à en traquer d'autres. Les autorités estiment en effet que Gary Haggerty a pu leur fournir des informations substantielles au sujet de plusieurs dizaines de meurtres, même si concrètement il n'a permis des poursuites que contre une seule autre personne. Les proches des victimes de Gary Haggerty n'ont pas caché leur émotion et leur colère à l'issue du procès. Kieran Fox, dont le père a été abattu en 1994 alors qu'il déjeunait dans sa voiture avec un collègue près du chantier où il travaillait, s'est interrogé devant la presse comment un homme ayant commis autant de crimes peut-il ressortir libre. Car Gary Haggerty a déjà passé plus de 3 ans en prison dans l'attente de son jugement et il pourrait être prochainement intégré dans un programme de protection de témoins sans jamais effectuer le reste de sa peine. Où est la justice dans ce pays, clame un autre fils de victime, alors que l'Irlande du Nord célèbre cette année les 20 ans du processus de paix, un processus qui a certes mis fin aux violences intercommunautaires mais qui n'a pas encore su apporter toutes les réponses aux blessures qui en sont issues.
Cela fait 2 mois déjà qu'une coalition de la droite et de l'extrême droite gouverne l'Autriche. Coalition qui a cette fois suscité très peu de réactions en Europe et peu de manifestations dans le pays alpin. Il y a 18 ans, une première association entre la droite et le FPE avait provoqué des vagues de protestations massives. On en est loin aujourd'hui. Les quelques mouvements de contestation n'ameutent plus les foules. Pourtant, il existe encore des résistants à Vienne, comme ces mamies au bonnet rose et de jeunes chanteurs engagés, deux générations liées par le même souci de responsabilité morale. Reportage Céline Béal.
Dans les manifestations qui réunissent régulièrement quelques milliers d'opposants au gouvernement du conservateur Sebastian Kurz, allié au FPE, un groupe d'une centaine de personnes se fait remarquer. Avec leurs bonnets de laine rose, ce sont les Omas gegen Rechts, les mamies contre l'extrême droite. Susanne, 60 ans, fait partie de ces seniors revendicatrices. Elle a peur que le gouvernement ne détricote les acquis sociaux et démocratiques de l'après-guerre, alors elle descend dans la rue, puisqu'elle a du temps.
À notre âge, nous ne travaillons plus autant et nos enfants sont déjà grands. Et on s'aperçoit que tout ce qu'on croyait acquis, cette assurance que nous avions après la Deuxième Guerre mondiale, que nous ne connaîtrions plus jamais ça, eh bien nous voyons qu'elle se fissure et que tout peut recommencer.
Voilà pourquoi Susanne Scholl a fondé dans l'urgence ce groupe car elle voit peu à peu disparaître les derniers témoins des crimes nazis. Les hommes y sont également les bienvenus. Elle souhaite que les aînés de la société reprennent à leur compte le devoir de mémoire, parce que la rhétorique populiste utilisée par le FPE contre les étrangers et les musulmans lui rappelle les heures noires de l'Autriche.
Je viens d'une famille juive. Mes grands-parents ont été assassinés tous les quatre. Et aujourd'hui, tout d'un coup, j'entends qu'on utilise à nouveau une langue semblable à celle de l'époque. Elle est utilisée contre d'autres groupes de population. Mais la langue est la même, et c'est ce qui nous inquiète et ce contre quoi nous nous élevons.
Susanne Scholl se croit porteuse d'une responsabilité historique entre générations passées et futures.
Notre but est de protester pour l'avenir, pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous voulons qu'ils puissent s'épanouir dans un pays où il fait bon vivre.
Et qu'en est-il justement des plus jeunes ?
Wenn man ein Geschichtsbuch aufschlägt, dann tauchen Fragen auf im Kopf.
Sur la scène du théâtre viennois Rabenhof, la semaine dernière, Wendy, 33 ans, réfléchissait elle aussi à se passer autrichien. Au concours de la chanson protestataire, elle présentait une chanson intitulée « Was », dont l'idée lui est venue en s'interrogeant sur ses compatriotes des années 30 et 40. Certains étaient des nazis actifs, mais beaucoup ont surtout été coupables de passivité, selon elle.
Eux aussi ont permis ces crimes en laissant faire. On peut penser qu'à l'époque, beaucoup, beaucoup de personnes n'ont pas résisté. Du coup, elles portent aussi la responsabilité de ce qui s'est passé.
Cette idée l'a portée à s'interroger sur ce que l'histoire retiendra d'elle et de ses contemporains.
Et après, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passera quand nos enfants nous demanderont un jour « Et vous alors, vous avez fait quoi ? Pourquoi vous n'êtes pas descendu dans les rues ? Pourquoi vous n'avez pas élevé la voix ?»
Avec ce morceau, le groupe de Wendy, Wendepunkt, espère encourager ses concitoyens à s'engager activement. Il a été applaudi par environ 500 personnes au théâtre Rahmhof et quelques milliers ont écouté la retransmission du concours sur la radio FM4. Un public limité somme toute, et sans doute déjà du même bord idéologique. Peut-être que ces chansons n'auront converti personne, mais elles appliquent au moins un peu de baume au cœur des opposants au gouvernement, en difficulté politiquement.
Le reportage de Céline Béal dans la capitale autrichienne. En 2014, l'organisation terroriste État islamique s'empare de la ville de Sinjar en Irak, où vivent la majorité des yézidis. Les membres de Daesh tuent les hommes, kidnappent femmes et enfants pour les réduire en esclavage. En hommage à ce peuple opprimé, la photographe belge Johanna de Tessière a choisi d'exposer ses clichés pris pendant 3 ans en Irak, mais aussi en Allemagne et en Belgique, des pays d'exil. Lex Milota.
La photographe a d'abord rencontré ces hommes et ces femmes un peu par hasard dans un camp au Kurdistan. Plus de 400 000 yézidis ont dû fuir l'avancée de l'organisation terroriste État islamique en Irak en août 2014. On y voit surtout des femmes en train de faire du pain, laver du linge. De nombreux hommes ont été tués. Audrey Villens, chargée de projet à l'Université libre de Bruxelles.
On part des camps où on peut voir donc des femmes et encore quelques hommes âgés, mais il reste très peu d'hommes sur les photos de l'exposition puisqu'ils étaient très peu dans les camps. Ensuite, elle a également rencontré des personnes yézidis en Allemagne, des femmes qui avaient été réduites en esclavage par Daesh, donc des femmes qui avaient été libérées, qu'elle a pu rencontrer. Elle a également rencontré des enfants qui ont été enfants soldats au sein de Daesh. Et donc, c'est les photos de ses différentes rencontres durant son voyage.
Femmes vendues comme esclaves sexuelles, enfants soldats, les portraits et les témoignages des rescapés racontent au fil de l'exposition l'histoire des yézidis. La fin de l'exposition revient sur la reconstruction et la lutte actuelle depuis l'étranger pour obtenir justice devant la Cour pénale internationale. 40 000 yézidis vivent en Allemagne et 5 000 en Belgique.
À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants, le journal.